I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et surtout que vous êtes prêts pour le missile que je vais vous envoyer dans la face, parce qu'aujourd'hui, on va revoir la toute première règle du livre 12 règles pour une vie du fameux docteur Jordan Peterson, El Padre adoré. J'ai fait un épisode d'introduction au cours duquel je vous expliquais comment j'ai découvert ce monsieur, pourquoi je me suis intéressé à lui et comment je me suis retrouvé à lire son livre et à suivre ses cours de psychologie à Harvard. Bête de monsieur, gros respect. Règle 1, stand up straight with your shoulders back, ça veut dire tiens-toi droit avec les épaules en arrière. C'est une règle extrêmement pratique, tu vas pouvoir dès aujourd'hui commencer à te redresser, dès maintenant tu vas pouvoir commencer à te redresser, mais surtout à la fin du podcast, tu vas comprendre exactement pourquoi est-ce que c'est important de le faire, comment est-ce que ta posture a un impact sur la régulation de tes émotions, autrement dit sur la manière dont tu te sens, mais également sur la manière dont les autres personnes autour de toi vont te traiter. Et la raison pour laquelle c'est important que tu écoutes cet épisode, c'est pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Une fois que tu auras compris tout le mécanisme du pourquoi, du comment, c'est pas simplement une personne qui dit redresse-toi. Tu vois, genre, c'est le but de ce livre. En fait, ce livre, c'est toujours comme ça. C'est des règles qui peuvent a priori paraître très simples. C'est des règles que tu as entendues. Tu vois, tu as probablement entendu des gens qui étaient responsables de ton éducation te dire tiens-toi droit, tu vois, genre, mets les épaules en arrière, tu vas avoir des problèmes de dos. Ce que fait ce livre, c'est qu'il prend ces règles hyper basiques et en fait, il va aller creuser au bout des choses et il va t'expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est au final fondamental que tu le fasses. Donc aujourd'hui, on va parler de homards qui combattent pour une canette de Red Bull que t'as jetée au fond de l'eau. On va parler de contrôle émotionnel, de langage corporel comme je l'ai dit. On va parler du système sérotoninergique, donc du système responsable de la production de la sérotonine qui est une hormone et un neurotransmetteur. C'est pas très important que tu saches exactement comment ça fonctionne tout ça. Retiens juste que la sérotonine, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la manière dont tu te sens et sur la manière dont tu te tiens. Les hormones, elles font ça, généralement. Ce que l'hormone fait, tu vois, comme le cortisol, c'est une hormone qui va faire que ton rythme cardiaque, il accélère, il bat plus vite. C'est l'hormone du stress. Et dans certaines situations, c'est super parce que ça va te permettre de réagir plus rapidement quand tu es dans une situation de danger. Le problème, c'est que des fois, tu vas avoir de la cortisol qui est produite alors qu'il n'y a aucune raison de stresser et que le stress est contre-productif. Genre, tu es en date avec une meuf, tu n'as pas envie que ta cortisol elle commence à monter de ouf parce que du coup, tu vas être nerveux, tu vas lui communiquer le stress. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça biologiquement. Quand une personne est stressée au sein d'un groupe d'individus comme le nôtre, des animaux sociaux, c'est fait pour que les autres se mettent à stresser également. Parce que la base de cette hormone, c'est en mode, il a vu un lion, il est stressé, il a senti un truc, il a vu genre, tu vois, un buisson bouger comme ça, donc il commence à stresser. C'est important que tout le monde commence à avoir le rythme cardiaque qui accélère, histoire que tout le monde soit prêt en fait à se barrer au moment où les choses partent en couille. Bref, ceci étant dit, voilà, testostérone, de nouveau hormone qui te donne envie de te reproduire, très utile. Dans certaines situations, c'est pas ouf, parce que nous, en tant que mec, on va avoir tendance à faire des trucs très stupides dans le but de se reproduire, même parfois à mourir, en fait, quand on saute du toit de l'hôtel pour atterrir dans une piscine dans le but d'impressionner la meuf qu'on a rencontrée deux jours plus tôt en vacances au Cap d'Agde et qu'on se mange leur bord de la piscine, c'est complètement stupide. Donc, sérotonine, hormone, et on va comprendre en fait comment cette hormone a un impact sur ta posture, tes émotions, et comment ta posture ensuite a un impact sur la manière dont les autres te traitent. C'est hyper intéressant, tu vas en retirer plein de choses. Peut-être que je pose une rapide tablette des matières, alors c'est pas la manière dont le livre est organisé, dont la première règle est organisée, mais c'est la manière dont je vais aborder la chose. Donc tout d'abord, je vais parler de la gestion du conflit chez les animaux, chez les homards, et on va comprendre pourquoi chez les homards et pas chez les êtres humains. On va comprendre quel est le lien qui existe entre les homards et les êtres humains. Très intéressant, ça va nous permettre de voir, de comprendre des choses au niveau sociétal. Pour te la faire courte, souvent on a l'impression que, plusieurs personnes ont un problème avec le concept de hiérarchie humaine. Ça donne l'impression que certains êtres humains ont plus de valeur que d'autres, comme si certaines vies valaient au fond plus que d'autres. C'est pas du tout un problème avec ça. On est tous égaux métaphysiquement ou devant Dieu. Ce qui est marrant, c'est que l'argument selon lequel tu vois on a tous la même valeur, c'est un argument strictement religieux en fait, qui découle de la divinité de l'individu qui a été amené par par le christianisme, et donc ça me fait marrer quand je vois des gens qui se revendiquent athées et qui prétendent qu'on a absolument tous la même valeur, parce que c'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Tu vois, par exemple, chez les Grecs, il y avait que les citoyens qui avaient des droits. Si t'étais pas citoyen, ben tu pouvais te faire juste, ta vie elle avait aucune valeur. Bref, on va parler du coup gestion du conflit chez les animaux. On va voir comment est-ce que l'issue d'un conflit chez les animaux, donc on va voir ça chez les homards, mais c'est également le cas chez les êtres humains, a un impact sur le niveau de sérotonine. On va ensuite comprendre les conséquences d'un niveau de sérotonine élevé sur l'émotion d'un individu. On va comprendre l'impact d'un niveau de sérotonine faible sur l'émotion d'un individu. Ensuite, on va comprendre pourquoi est-ce que la hiérarchie, pardon, c'est une belle solution apportée par la nature. On va comprendre la différence entre hiérarchie et tyrannie, plus particulièrement dans les sociétés humaines, pour au final conclure sur la conclusion du livre, qui est donc le lien entre ta neurochimie et ton langage corporel. C'est parti, gestion du conflit chez les animaux. Pour ça, dans le livre, le docteur Peterson prend l'exemple des homards. Pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple des homards ? Parce que, comme il l'a dit dans une conférence, il est simplement tombé par hasard sur un rapport qui explique que les homards tournaient à la sérotonine et que, je ne vais pas vous spoiler, enfin si je vous spoil complètement, mais que les antidépresseurs fonctionnent chez les homards. Gardez cette info pour plus tard, je reviens dessus tout de suite. Les homards, c'est des animaux qui, tu vois, c'est des espèces de petits crabes, tu vois, ils sont là avec leurs pinces, comme ça, ils se baladent dans l'océan. Et les homards, ce qu'ils kiffent, c'est trouver des dessous de cailloux, parce qu'ils peuvent en faire leur maison. Donc dès qu'ils trouvent un rocher, et qu'ils voient un petit espace sous le rocher dans lequel ils pourraient venir genre se poser au calme, tu vois, genre juste passer leur vie, ben ils sont refaits. Le truc, c'est que les homards, ça leur suffit pas. Ils ont aussi envie d'avoir du mobilier, genre une petite armoire, tu vois, pour ranger leurs affaires de homard, ou un petit canapé pour se poser et mater leur télé de homard. Ils ont besoin de construire leur télé de homard. Comment ils font pour se trouver du mobilier ? Mais ils cherchent des détritus, ils cherchent des trucs qui traînent dans la mer. Donc les morceaux de plastique que toi t'as balancé quand tu vas en vacances, ben eux ils les récupèrent et ils fabriquent leur maison avec. Très important de jeter des déchets dans la mer, continue à le faire. Le problème du coup, ben, pour le homard, c'est que pas assez de gens jettent des déchets dans la mer. C'est trop marrant. Je sais pas si c'est horrible ou trop marrant, bref. Il faudrait que vous jetiez plus de déchets dans la mer, c'est ça la conclusion. Comme il n'y a pas infinité de dessous de cailloux et de déchets dans la mer, les homards, en fait, se retrouvent à devoir s'affronter d'une manière ou d'une autre pour déterminer qui est-ce qui aura accès aux ressources. Donc les ressources, c'est le logement, et les ressources, c'est, on va peut-être voir que c'est les femmes aussi, enfin les femelles homards, mais également les détritus qui traînent dans la mer. Et pour pouvoir déterminer qui aura accès aux ressources sans avoir recours au combat physique et à la mise à mort du homard vaincu, la nature a mis en place un super système. Alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'affrontement physique, c'est pas une bonne solution. Imagine, t'as deux homards qui se disputent une canette de Fanta. Ils trouvent que ça ferait un joli fauteuil et ils ont envie de, tu vois, la couleur, ils aiment bien et tout, c'est pas mal, c'est super design, c'est new age en plus, tu vois, les trucs métalliques, ils aiment bien les homards. Ben, si deux homards se le disputent et qu'ils se mettent directement en mode combat à mort, ce qui va se passer inévitablement, c'est que ben, un homard va mourir. C'est un combat à mort, par définition, il y en a un qui meurt. Le problème, c'est qu'au cours du combat, le homard vainqueur, il a très vraisemblablement été blessé par le homard défunt. Ce qui veut dire qu'un troisième homard opportuniste peut se pointer et juste, en fait, finish him, tu vois. Genre, il a 20% de vie, il arrive, il lui met juste un... Tu vois, il arrive, il lui met juste un petit KO. C'est facile de le tuer, il est à moitié mort, le homard vainqueur. Et du coup, ce homard opportuniste, il peut récupérer la canette de Fanta, il la ramène dans son logement à lui, et ensuite, il attire les femelles, parce que, comme on va le voir plus tard, les homards femelles sont intéressés par les homards vainqueurs. Et vu qu'il attire les femelles et qu'il baise les femelles, et que ce homard vainqueur... Au final, tu vois, le homard opportuniste, pardon, bah, il avait peut-être pas les gènes les plus intéressants, c'était pas le homard le plus puissant qui allait pouvoir donner naissance, en s'accouplant avec les femelles, au bébé homard, tu vois, qui allait être fort et qui allait pouvoir survivre. En fait, c'est juste un opportuniste. Ça se trouve, le meilleur des homards, c'était le homard vainqueur de base, tu vois. Et donc, le homard opportuniste va donner naissance à des homards qui sont éclatés au sol, tu vois, donc des bébés homards un peu... Sigma, je sais pas du tout, je comprends pas trop, tu vois, ces trucs, enfin, je sais pas que je comprends pas trop, je me suis jamais vraiment penché sur le truc, donc, mais il va donner naissance à des homards de merde qui vont mourir par noyade, tu vois, genre, qui vont mourir de trucs stupides, ils vont trébucher sur, c'est des homards qui sont pas faits pour la survie. La nature, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait le homard avec les meilleurs gènes, qui féconde la homard avec les meilleurs gènes, histoire de donner les bébés homards avec les meilleurs gènes. Et par meilleurs gènes, j'entends les gènes qui vont leur permettre de survivre dans leur environnement. C'est ça le but de la nature, ok ? Donc la nature, elle a mis en place un système assez cool. Dans le but de déterminer qui aura le vainqueur sans avoir recours à l'agression physique, les homards, en fait, vont s'affronter sur différents niveaux de résolution de conflits, si tu veux. Comme les êtres humains. En fait, quand ils se retrouvent en face à face, tu vois, il y a la canette de Fanta qui est juste là. ils vont d'abord se propulser des jets dans la gueule, tu vois, genre ils ont un espèce de truc, c'est pas de la pisse, tu vois, mais c'est, tu peux voir ça comme de la pisse si tu veux. Et ils se propulsent des jets dans la gueule. Et ce jet qui s'envoie dans la gueule, il donne plusieurs informations sur le homard qui a propulsé le jet. Donc moi j'arrive devant toi comme ça, et je t'envoie le jet dans la gueule, et toi tu te prends ce truc comme ça, et tu comprends en fait combien je pèse, tu comprends quelle est ma taille exactement, tu comprends quel est mon sexe, tu comprends quelle est mon humeur. Je te donne plusieurs informations sur moi pour te dissuader. Si les deux homards, ils s'envoient le jet dessus, chacun il se dit « Ok, donc là je suis en face d'un homard de 400 grammes », l'autre il dit « Ouais, moi je suis en face d'un homard de 407 grammes ». Du coup il se dit « Peut-être que je peux le prendre, tu vois, il est peut-être 7 grammes plus lourd que moi, mais il y a moyen que je le combatte ». Donc si le fait d'avoir propulsé des jets donnait des informations sur les deux homards, ça n'a pas suffi à dissuader l'un d'entre eux, ils vont passer au niveau de résolution numéro 2 d'un conflit, comme les êtres humains. T'arrives à, je sais pas, genre t'as une place de parc, t'as deux automobilistes qui arrivent, nous on est plus civilisés que le homard, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est ça qui est génial, c'est pour ça qu'on a des sociétés qui sont un peu plus cool que les sociétés des homards. Mais imagine, t'as deux êtres humains qui sont déjà en proie à leurs émotions, ils sont irrités parce qu'ils ont vécu des trucs pas cool dans la journée, c'est des situations qui arrivent, surtout quand on est en voiture, parce que quand t'es en voiture, bah t'es très dangereux et tu peux mourir, tu vois, il y a beaucoup de chances pour que tu meurs parce que tu vas très vite, il y a d'autres gens qui vont très vite, et du coup t'as un système de défense agressive qui est constamment enclenché. C'est pour ça que les automobilistes très facilement vont insulter les autres. C'est pas qu'ils sont réellement agressifs, c'est la peur qui induit cette émotion. C'est comme un enfant, tu vois, qui est nerveux, qui a peur et qui va être agressif parce qu'il a peur. C'est exactement ça qui se passe, genre neurochimiquement, chez un individu qui est agressif au volant. Bref, ils arrivent les deux face à la même place de parc. S'ils sont courtois, bah vas-y, je te laisse passer en premier, bam, c'est cool. Et puis l'autre, bah, il tourne un peu et au final, il trouve une autre place de parc. Mais si ils ont envie de se disputer la place de parc, bah, ils vont commencer par faire quoi ? Par s'insulter. Ils vont parler, alors peut-être qu'ils vont commencer par parler, mais ensuite ils vont s'insulter. Ils vont faire les beaux, ils vont essayer de donner une indication à l'autre automobiliste que c'est eux les plus forts. C'est exactement ce que font les homards quand ils se propulsent le jet. Ça fonctionne pas, niveau de résolution du conflit, 2. Les homards vont commencer à danser. En fait, ils se mettent face à face, tu vois, ils mettent leurs pinces comme ça, et ils tournent autour comme ça, tu vois, ils tournent un peu en demi-cercle, ils font un peu un espèce de combat, et ils essayent d'impressionner l'autre, si tu veux. Et par moments, ils vont un peu se foncer dedans. C'est un peu comme des humains qui se mettent à faire un tête-contre-tête, tu vois, ou qui commencent à se pousser. Ils essayent de montrer que physiquement, ils sont plus forts que l'autre. À ce moment-là, il y a un des deux homards qui peut se dire « Ah, franchement, ce mec, il danse super bien et tout, et il a quand même l'air balèze avec ses pinces. Je vais me barrer, je vais lui laisser la canette de Fanta. » Mais si ça se trouve, les deux homards, ils se disent « Ouais, je pense que je peux le baiser, en fait, si on continue et qu'on va plus loin. » Donc, ils passent au niveau de résolution du conflit, niveau 3. Niveau de résolution du conflit, niveau 3. Ils passent au niveau 3, au troisième niveau de résolution de conflit. Le troisième niveau de résolution de conflit, c'est de retourner le homard qui est en face de toi. Donc, en gros, t'arrives et t'essayes de le mettre genre sur son dos pour lui montrer que t'es plus fort, comme chez les humains. T'arrives pas en poussant le mec, en faisant un tête-contre-tête, peut-être que t'essayes de le maîtriser, ou peut-être que t'essayes de lui mettre une patate pour le coucher, pour qu'il arrête de bouger, tu vois, ce qui est très con, tu vois. Alors c'est pas exactement, on fait pas exactement pareil, mais voilà, les homards ont une technique, c'est qu'ils essayent de le retourner. Et si l'autre homard, si un des homards retourne super facilement le deuxième homard, bah le deuxième homard, il se dit, ah, il m'a vraiment retourné facilement, donc je vais lui laisser la canette de Fanta. Mais si bah, ils essaient de se retourner et c'est quand même genre super serré, bah, ils passent au dernier niveau de résolution d'un conflit où ils vont grosso modo essayer de choper un des membres de l'autre homard avec leur pince. Ils vont tourner la pince et tirer hyper fort, et en gros ils vont arracher des antennes, ils vont s'arracher les pattes, et c'est un niveau de résolution de conflit qui peut mener à la mort d'un des deux homards. Maintenant, quel que soit le niveau de résolution auquel le conflit a été résolu, le homard vainqueur va voir ses niveaux de sérotonine augmenter et le homard vaincu va voir ses niveaux de sérotonine chuter. Le homard qui vient de perdre, qui voit ses niveaux de sérotonine chuter. Deux conséquences pour lui. Premièrement, conséquence physique. Il va se recroqueviller, sa queue, elle va se rabattre contre lui. Conséquence psychologique, perte de confiance en lui. Il va être à fleur de peau, il va être hyper irritable et au moindre signe de danger, il a un mécanisme, c'est les homards qui font ça, tu vois, ils se propulsent avec leur queue. Genre ils ont leur queue qui font piou et piou, il peut s'échapper comme ça. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? En fait, la nature, c'est bien fait. Vu que le homard, il vient de perdre son conflit, elle a fait chuter ses niveaux de sérotonine parce qu'elle en déduit que le mec, c'est un bolos et qu'il va probablement se refaire bolos à l'avenir et donc qu'il a meilleur temps d'éviter le conflit. Donc, elle lui fait perdre confiance en lui, histoire qu'il s'échappe au cas où il y a un autre homard ou un prédateur qui arrive. Et elle va à la fois lui demander de se recroqueviller physiquement à travers à nouveau des niveaux de sérotonine bas pour que si un prédateur arrive ou un autre homard arrive pour le faire chier, bah, il soit déjà prêt à se défendre. Mais du coup, ce homard, quand il se balade, genre,
comme ça, tu vois, comme une victime. Bah, tout le monde comprend que c'est une victime, tu vois. Tous les autres homards, quand ils sont en train de marcher dans le quartier des homards, bah, ils comprennent que c'est une merde. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre homard ? Lui voit ses niveaux de sérotonine augmenter, il va, au contraire, prendre confiance en lui. Il va se balader au milieu du kiex, il va écarter, tu vois, les épaules, et il va marcher comme un gros boss, il va faire la marche de McGregor. Tous ses organes fragiles, tu vois, donc tout ce qui est son ventre et tout ce qui est peut-être ses épaules ou sa gorge, sont exposés au monde. C'est-à-dire que si un homard l'attaque ou si un prédateur l'attaque, il a moins de chances de remporter le conflit. Mais en même temps, il est en train d'indiquer à tous les autres homards du quartier, tu vois, qu'il a suffisamment confiance en sa capacité à se défendre et à leur arracher la tête, que même s'il venait l'attaquer et qu'il réussissait à lui mettre le premier coup, bah en fait, il les décapite au final. Il a posé la canette de Fanta chez lui, il marche dans le quartier comme ça. Les femelles, elles le voient se tenir droit. Qu'est-ce qu'elles en déduisent ? Elles se disent, ah, ça c'est un homard en fait qui... parce qu'il peut se permettre de se tenir droit et du coup de se prendre le premier coup et ensuite de quand même décapiter le homard qui aura osé l'affronter, ben, c'est probablement un gros boss. Donc s'il me ramène dans, sous son caillou, il y a probablement une canette de Fanta, un petit canapé où il pourra genre me faire des enfants qui seront bien génétiquement, tu vois. Donc les femelles, elles sont attirées par le homard qui a des niveaux de sérotonine élevés. Et donc le mec va les ramener chez lui, tu vois. Il va les féconder et ils vont donner naissance à des jolis petits homards bien résistant. Maintenant, tu te demandes peut-être en quoi ça te concerne. En fait, si tu prends un homard vaincu, un homard victime, qui a donc plus envie de se battre, qui fuit à la moindre occasion, et que tu lui donnes du Prozac, qui est donc une drogue qui va empêcher, alors techniquement, ça empêche la recapture de sérotonine au niveau des synapses, ce qui fait que tes niveaux de sérotonine augmentent. Retiens juste ça. Tu files du Prozac à un homard, ses niveaux de sérotonine augmentent, alors que le mec à la base, le homard à la base, tout ce qu'il avait envie de faire c'était de s'échapper, tu vois, d'éviter le conflit, il était comme ça, il va se redresser, il va pas hésiter à péter la gueule au homard qui lui fait chier. En fait, le Prozac, c'est une drogue qu'on donne aux êtres humains qui sont en dépression. On leur donne ça pour leur redonner confiance en eux et pour leur redonner envie de prendre des risques dans la vie. Et la raison pour laquelle le Prozac fonctionne chez les homards tout comme il fonctionne chez les êtres humains, c'est parce qu'on a exactement le même système sérotoninergique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que il y a 350 millions d'années, au moment où on a divergé des homards, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun, on va l'appeler homardo, qui habitait probablement dans la mer, vu qu'on vient tous de la mer au final, on était des êtres unicellulaires au début. Il y a 350 millions d'années, et c'est il y a très longtemps, hein, il y a 65 millions d'années, il y avait encore des dinosaures. À cette époque, du coup, 350 millions d'années, il y a un homardo, il tournait lui-même à la sérotonine. Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Mais en fait, il y a des homardos qui, à un moment donné, ils ont commencé à aller sortir un peu de l'eau, tu vois. Et sur les dizaines, centaines de milliers d'années, millions d'années qui ont suivi, les homardos qui sont sortis de l'eau ont commencé à évoluer et sont devenus des humains. Les homardos qui sont restés dans l'eau ont évolué eux aussi et sont au final devenus des homards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, les humains et les homards ont tous un système sérotoninergique. Sur 350 millions d'années, la nature a conservé le système sérotoninergique, c'est-à-dire qu'elle a continué à favoriser la survie et la reproduction des individus qui avaient ce système sérotoninergique parce que c'était une bonne solution. Une fois de plus, le système sérotoninergique permet aux individus de déterminer qui est-ce qui a accès aux ressources limitées sans avoir recours à l'agression physique. C'est une bonne solution de la nature. En conséquence, très rapidement dans une société de homards, tout comme dans une société de humains, il émerge une hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les homards, en fait, ils savent qu'il ne faut pas faire chier. Quand ils voient un homard qui se redresse, qui se tient droit, ils comprennent, au fond d'eux, que ce mec... faut pas aller lui casser les couilles. En revanche, s'ils voient un homard en mode victime comme ça, ils se disent « Ah, si j'ai envie d'aller péter la gueule à un homard ou si j'ai envie de voler les... » Tu vois, ils voient un homard un peu victime comme ça qui est en train de tenir, j'en sais rien, un bouchon de... Je sais pas, un bouchon de granini, tu vois. Il a comme ça, il a son petit bouchon de granini, il va en faire un pouf, tu vois, il se posait chez lui et fait un pouf. Bah, vu que les autres homards, ils le voient un peu victime, bah, ils disent « En fait, vas-y, je vais lui mettre un coup de pression, le mec, il va se chier dessus et je vais lui voler son goûter, son bouchon de granini. » Pareil chez les êtres humains. Là, je vais peut-être citer Simon Sinek, du coup, l'auteur de « Pourquoi les leaders mangent en dernier », qui explique que quand on était au temps des hommes des cavernes et que certains individus partaient à la chasse, ils ramenaient, j'en sais rien, un sanglier, ils balançaient la carcasse à l'entrée de la grotte, tout le monde rush vers le sanglier. Mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde rush vers le sanglier ? Bah, il se passe que le mec le plus balèze du groupe, bah, en fait, il va distribuer des coups de coude, il va se tailler un passage et il va commencer à bouffer directement le sanglier. Et ça, c'est une mauvaise solution pour les artistes du groupe, tu vois. Pour les mecs qui dessinent, qui peignaient des bisons sur les cavernes. Parce qu'ils sont comme as, tu vois. Et s'ils se prennent des coups de coude, ben, ils se font éclater la gueule et ils n'ont pas envie de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reculent. et il laisse le mec le plus balèze. Alors là, on parle des hommes des cavernes, à l'époque où c'était le mec le plus balèze qui arrivait au sommet de la hiérarchie, juste par l'agression physique. Mais encore, ça n'allait pas juste là, parce que si le mec, c'était juste un tyran, il se fait niquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, l'artiste du groupe recule, il laisse le mec le plus balèze aller manger à la carcasse, donc le mec le plus balèze, meilleure bouffe, meilleur lit, meilleure meuf. Mais ça, ça vient en échange d'une chose.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si le groupe est en danger, s'il y a un tigre à dents de sabre qui se pointe et qui commence à attaquer la grotte, bah tout le monde va s'attendre à ce que ce soit le mec le plus balèze du groupe qui vienne défendre le groupe. C'est-à-dire que c'est pas gratuitement, t'offres pas des privilèges à ton leader, entre guillemets, t'offres pas un privilège au mec qui est hiérarchiquement supérieur à toi, gratuitement. Une position hiérarchique supérieure dans une hiérarchie humaine, elle est grevée d'une responsabilité de protection pour les autres membres du groupe. Tes parents, ils ont plus d'autorité que toi, mais s'il y a un problème, c'est eux qui payent les factures. Ils ont plus de responsabilités. Ton boss, il a un salaire plus élevé que toi, mais s'il y a un client qui vient se plaindre, bah, c'est lui qui va prendre pour sa gueule. Si au moment où le client vient se plaindre, ton boss il dit « Ouais, mais c'est la faute de mon employé », tout le monde va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Déjà, toi, tu vas dire « Mais c'est un fils de pute, c'est toi le boss, prendre la responsabilité pour ce que t'es en train, pour le problème qu'il y a eu », même si c'est toi, l'employé, qui a commis l'erreur. Le boss, il est là pour prendre la responsabilité qui est incombée au privilège qui lui vient de sa position hiérarchique supérieure. Au final, une hiérarchie humaine fonctionne comme ça, de manière générale. C'est-à-dire que de manière générale, même le manager le plus tyrannique, qui n'est intéressé que par le profit, qui veut juste tirer le maximum de ses employés, bah s'il est un peu smart, il comprend que pour tirer le maximum de ses employés, il faut qu'il se préoccupe du bien-être de ses employés. On sait très bien que dans une entreprise, si les managers sont des fils de pute, les employés vont aller jusqu'à commettre des petits actes de sabotage pour détruire le truc. Genre, ils vont détruire des petits trucs, ou si t'es dans une boulangerie, le patron de la boulangerie, c'est un bâtard, ils vont jeter des pains, ou ils vont peut-être cracher dans la farine, ou j'en sais rien. Tu vois. Les gens font ça. La psychologie humaine fonctionne comme ça. T'as besoin de savoir que le mec qui est hiérarchiquement supérieur à toi, il est là et il se préoccupe de ton intérêt. T'as besoin de le savoir. Le fait qu'on fonctionne de cette manière, nous permet à nous, êtres humains, d'avoir une hiérarchie, d'avoir un système aussi joli que le nôtre. Ouais, notre système, c'est de la merde. Tu peux dire ça si tu veux, mais à quel système tu le compares ? Au système des homards ? T'as envie qu'on vive comme des homards ? Les homards qui fonctionnent purement à l'agression physique, résultat, ils coopèrent pas. Si un prédateur qui arrive, bah, ils vont juste se faire bouffer un par un. Ils ont pas de sécurité sociale. Ils ont pas de retraite. En fait, t'as pas envie d'avoir une société comme les homards. Pourquoi ? Parce que les homards ont des hiérarchies qui sont basées juste sur l'oppression physique. Quand tu vas dans un exemple intermédiaire, tu regardes ni les homards ni les humains, tu regardes les chimpanzés, un truc qui va un peu entre les deux. Qu'est-ce qui se passe ? On a observé que le chimpanzé qui tyrannise simplement les autres chimpanzés et qui arrive au sommet de la hiérarchie de cette façon-là, bah en fait, il se retrouve à se faire attaquer par plusieurs chimpanzés en même temps, c'est-à-dire que les chimpanzés font des putains d'alliances et ils vont lui dégommer sa gueule, lui arracher ses couilles et le laisser se vider de son sang. Concrètement, c'est ce qu'ils font les chimpanzés. C'est-à-dire que les chimpanzés qui veulent accéder à une position de pouvoir, qui veulent être les mâles alpha, comment est-ce qu'ils font ? Ben, ils vont en fait manger les poux des autres singes. Ils vont modérer les interactions. Ils vont soigner leurs relations sociales avec les autres singes. Ils vont aller vers d'autres gens, tu vois, ils vont leur dire, vers d'autres singes, ils vont leur dire « Ah, vas-y, je te mange tes poux et tout, est-ce que tout va bien dans ta vie ? Ouais, non, il me manque un bâton pour construire ma cabane. Ok, tiens, mec, j'ai trouvé un bâton. » Tout ça pour dire que les hiérarchies humaines ne sont pas basées purement sur l'agression. On a un système plus évolué où, en gros, tu grimpes les échelons d'une hiérarchie en te préoccupant des autres membres du groupe. Plus ta position dans une hiérarchie humaine est élevée, plus tu as accès aux ressources, plus tu vas trouver une partenaire de qualité, plus tu vas avoir des émotions qui sont mieux régulées, plus tu vas te tenir droit. Donc on sait que plus tu as un niveau de sérotonine élevé, plus tu te tiens droit. Mais ce qui est cool, c'est que si tu te tiens droit, ton niveau de sérotonine augmente lui aussi. Et c'est là en fait que toute la règle prend son sens. En fait, il y a des recherches qui montrent que si tu fais une tête triste pendant 2 minutes, tu vas effectivement te sentir triste. Il y a également des recherches qui montrent que si tu te tiens droit, si tu te tiens dans une position en mode winner pendant 2 minutes en tant que mec, tu vas avoir tes niveaux de testostérone qui augmentent, tu vas avoir tes niveaux de cortisol qui baissent et tu vas avoir ton niveau de sérotonine qui augmente. Tu vas te sentir mieux simplement de par ta posture. C'est-à-dire que ton langage corporel, ta posture a un impact sur ta sécrétion hormonale, sur tes niveaux de sécrétion d'hormones. C'est taré, non ? C'est une bonne nouvelle. Et le truc le plus ouf, mais on sait que des aveugles qui n'ont jamais vu le comportement d'une personne qui gagnait un combat ou qui gagnait une épreuve sportive, quand ils gagnent, ils font comme ça. Et c'est ce qu'on fait tous. Quand on gagne, bam, on se met comme ça. Ça, c'est la position du vainqueur. C'est la position du mec qui gagne. Quand tu te tiens comme ça, quand tu te tiens droit, épaule en arrière, torse bombé, c'est ce qu'on t'apprend à l'armée, tes niveaux de sérotonine augmentent, tu te sens mieux, tu te sens plus dominant. Ce qui ne veut pas dire que tu es plus agressif, ce qui veut simplement dire que tu as moins peur des gens autour de toi. Quand tes niveaux de sérotonine sont faibles, en revanche, tes émotions sont mal régulées. Le moindre petit truc, c'est vu comme une agression. Tu prends tout personnellement, tu es irritable, quelqu'un qui fait quelque chose, tu es blessé, tu te sens constamment mal. Tu peux, via le contrôle émotionnel, via le stoïcisme, c'est-à-dire que même si tu as des émotions négatives, parce que ça va t'arriver dans la vie. Ça va t'arriver des jours où tu te sens mal, où tu as des niveaux de sérotonine bas, tu te fais virer du taf, tu te sens comme une merde, t'es un lobster, t'es un homard vaincu quand tu te fais virer du taf. Tu rentres chez toi, tu te sens hyper mal, t'es irritable, ta meuf elle te dit un truc, tu le prends personnellement, ça part en embrouille, et du coup qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu fonces sur les drogues, la nourriture de merde, tu vas mater du porno, tu vas chercher toutes les choses qui peuvent t'offrir du plaisir là maintenant tout de suite, parce que t'es plus prêt à sacrifier le présent pour le futur. Quand tu te sens mal, quand tes niveaux de sérotonine sont bas, tu veux avoir tout le plaisir là maintenant. C'est-à-dire que la nature sait que t'es une merde, tu vas probablement mourir demain, donc pourquoi est-ce que maintenant tu mangerais une salade ? Non, tu vas bouffer un McDo maintenant, c'est le truc le plus logique à faire, c'est complètement logique. Tu vas rester ami avec des gens qui sont toxiques, qui t'offrent des drogues, pourquoi ? Parce que bah, tu vas probablement mourir demain, donc autant conserver ces amitiés là maintenant. Tu perds ta vision long terme quand t'as des niveaux de sérotonine qui sont bas. Tiens-toi droit pour agir là-dessus et également pour être mieux traité de la part des autres. Quand un combattant de MMA comme McGregor arrive dans la cage et en fait il se tient droit, il n'est pas en mode combat comme ça, tu vois. Il se tient droit. On pourrait se dire que stratégiquement c'est très mauvais, tu vois, parce qu'il peut facilement se prendre une patate. Mais il est en train de communiquer à une partie très très ancienne du cerveau de son adversaire qu'il est tellement fort, tellement confiant, tellement dominant dans la cage, qui peut se permettre de se tenir dans une position vulnérable parce qu'il sait que même s'il se prend une patate, il va quand même réussir à gagner le combat. Quand tu te tiens droit, les gens te traitent mieux, tu te sens mieux à l'aise en public, tes émotions sont mieux régulées, t'as moins besoin de faire preuve de contrôle émotionnel parce que c'est fatigant. Le truc, c'est quand tu te sens mal, stoïcisme, t'agis de manière complètement indépendante de tes émotions. C'est-à-dire que tu te sens mal, ok, mais tu vas quand même faire le truc bien. Tu sens pas de manger une salade, tu préférerais manger un burger ou mater un porno, bah tu vas quand même manger une salade. C'est possible de le faire. Le message de cette règle, c'est pas de faire preuve de stoïcisme là-dessus. On est sur une règle qui veut clairement t'aider via ta posture à agir directement sur tes émotions. Le stoïcisme, ça vient après. Ça vient quand tes émotions sont pas là, bah agis quand même de façon... Mais au final, si tu peux te sentir bien dans un premier temps, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Avant que je te lise le chapitre, enfin un petit passage que j'ai sélectionné dans ce livre-là, je vais te demander de mettre un énorme like, de noter l'épisode sur Spotify, iTunes, de mettre un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast, enfin bref, genre... Mets-moi bien si ça t'a plu. On va se retrouver pour la deuxième règle demain, enfin demain, la semaine prochaine probablement. Donc n'hésite pas à poser genre des questions, à faire une remarque vis-à-vis de cet épisode. Je pourrais peut-être commencer l'épisode podcast de la semaine prochaine, du coup, en lisant, en répondant à une question. Et maintenant, sans plus attendre, du coup, merci du coup pour ta participation, pour le soutien, c'est ce qui me motive à continuer à créer du contenu. Je vais te lire le petit passage que j'ai sélectionné, qui est genre sur la toute fin du bouquin, enfin toute fin de la règle. People, alors je vais lire peut-être en anglais et ensuite je le traduis en français ou peut-être j'y vais phrase par phrase et ouais je vais aller traduire ça phrase par phrase. People, including yourself, will start to assume that you're competent and able. Donc ça c'est si tu tiens droit. Donc les gens, y compris toi-même, vont commencer à supposer que tu es compétent et capable. Or at least they will not immediately conclude the reverse. Ou au moins ils vont pas immédiatement supposer l'inverse. C'est-à-dire que si tu tiens pas droit, les gens, pas de manière consciente, mais vont supposer que t'es une merde. Grosso modo c'est ça. Et c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Ça veut pas dire que t'es une merde au sens où ta vie a pas de valeur. Mais ça parle d'une façon, une partie de notre cerveau qui est tellement profonde que... Tu vois, ça te pose en fait, cette règle, elle te pose... Comprendre ce truc, c'est comme comprendre les règles du jeu. C'est pas une question d'être fataliste et de se dire « Ah, mais je pourrais jamais changer de truc. » Ça te montre comment le jeu fonctionne, pourquoi le jeu fonctionne de cette manière-là, et on te donne une façon de tirer ce truc à ton avantage. Donc redresse-toi, je continue à lire. « Emboldened by the positive responses you are now receiving, you will begin to be less anxious. » Donc, enhardi par les réponses positives que tu es en train de recevoir maintenant, tu vas commencer à te sentir moins anxieux. C'est ce que je te disais juste avant. « You will then find it easier to pay attention to the subtle social clues that people exchange when they are communicating. » Donc, tu vas maintenant trouver plus simple de prêter attention aux petites indications sociales que les gens échangent quand ils communiquent. C'est-à-dire que tu vas plus être... Quand tu es dans un groupe de potes, tu vas plus être nerveux en mode « Oh mon Dieu, à tout moment, on va peut-être me tacler. » Non, tu es à l'aise, tu es détendu. Donc tu peux faire attention aux autres, tu es plus recentré sur toi et ta propre défense. Tu peux faire attention aux autres et tu es tout simplement, tu as des meilleures relations sociales. Tout simplement. Tiens-toi droit. « Your conversations will flow better with fewer awkward pauses. » Tes conversations seront plus fluides, avec moins de pauses gênantes. Tiens-toi droit. Redresse-toi, mec. This will make you more likely to meet people, interact with them and impress them. Ça va te rendre plus enclin à rencontrer des gens, interagir avec eux et à les impressionner. Doing so will not only genuinely increase the probability that good things will happen to you, it will also make those good things feel better when they do happen. Le faire, donc te tenir droit et avoir tes niveaux de sérotonine qui augmente, ne va pas seulement augmenter la probabilité que de choses positives t'arrivent, mais ça va également faire en sorte que ces choses positives, tu les ressens d'une manière encore plus positive quand elles t'arrivent. C'est-à-dire, elles te font encore plus de bien quand elles t'arrivent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu l'as pas fait juste avant, balance le like, balance le commentaire, balance le truc bien. On se retrouve semaine prochaine pour la deuxième règle de ce fantastique livre 12 règles pour une vie. Posez vos questions histoire que je puisse y répondre au début du podcast la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.